Donc, on est en fin de trajet, il est un peu tard, vous êtes tous fatigués, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais il me semble néanmoins utile de faire quelques remarques pour revenir un peu sur cette journée et ce qu'on a fait et ce qu'on a accompli, j'espère. Alors, tout d'abord, il y avait donc trois concepts ensemble dans le titre de cette journée. L'époque moderne, on n'a pas beaucoup discuté, c'est peut-être pour un autre jour. Mais il y avait quand même ces deux autres notions, il y avait histoire diplomatique et histoire connectée. Et l'enjeu était en quelque sorte de jouer ensemble avec ces deux choses-là. Et pour moi, donc, ces deux choses-là avaient un rapport, mais il ne s'agit pas de même genre de choses. Parce que histoire diplomatique, moi je dirais, c'est plutôt un objet, et histoire connectée, c'est plutôt une question de méthode. Donc, on peut faire l'histoire diplomatique de façon différente, en utilisant des méthodes différentes. On peut avoir pour objet d'histoire connectée beaucoup de choses, et pas seulement l'histoire diplomatique. Donc, il y a cette espèce de va-et-vient entre les deux, tout en sachant qu'il ne s'agit pas exactement épistémologiquement de la même chose, ou de même genre de choses, disons. Alors, en réfléchissant donc sur les objets de l'histoire diplomatique, ça c'est une question sur laquelle on est revenu maintes fois, et notamment aussi dans les derniers commentaires de Lucien Bailly, il me semble qu'on a peut-être dans ces communications aussi testé un peu les limites de ce que serait l'histoire diplomatique. Peut-être pour certains d'entre nous qui ne sont pas les professionnels de l'histoire diplomatique, on a appris qu'on avait des préjugés qui n'étaient pas justifiés. Mais je pense aussi qu'on a vu que même parmi ceux qui étaient pleinement dans ce courant-là, il n'était pas assez facile, ou toujours facile, de séparer l'histoire diplomatique d'autres choses. Par exemple, on a vu maintes fois que l'histoire diplomatique et l'histoire commerciale se croisent, ça c'est une évidence. Les diplomates sont souvent des commerçants sont souvent des diplomates ou des semi-diplomates. Ça, c'était une chose qu'on avait appris, mais qu'on savait déjà, probablement. Avec John Paul, je pense qu'on est revenu sur une autre question qu'on n'a pas tant explorée, mais je pense que ça vaudrait la peine de revenir sur ça dans d'autres contextes, qui est le rapport compliqué entre histoire diplomatique et histoire religieuse. Parce que parfois, ces hommes religieux ne sont pas constitués comme des États, ils ne sont pas des pouvoirs séculiers dans ce sens-là, mais néanmoins, il y a des va-et-vient entre les deux dans un autre contexte, notamment, par exemple, je pense à des cas assez connus dans le monde musulman, des soufis qui se promènent d'un état à l'autre, qui ne sont pas forcément des diplomates stricto sensu, mais néanmoins qui ont cette capacité de faire les connexions entre les états. Par exemple, ça a été dit par mon collègue Muzaffar Alam, entre autres, qu'on ne peut pas comprendre grand-chose de l'Empire moghol de la fin du XVIe siècle si on ne voit pas que le lien essentiel entre l'Empire moghol et l'Asie centrale s'est fait par les soufis. Les soufis qui sont les connecteurs et parfois qui ont un rôle qui n'est pas exactement celui des diplomates, mais ils ont leur propre prestige, ils ont leur propre, comme on dit même en français, baraka. Et donc, voilà, ces gens-là qui sont un peu, pas exactement votre patriarche d'Antioche, mais néanmoins, qui font cette espèce de lien qui fait aussi qu'il faut ouvrir un peu les limites de l'histoire diplomatique. Bien sûr, on avait aussi cet autre aspect-là qui est très connu et d'ailleurs qui mérite encore d'être exploré, c'est-à-dire le rapport entre histoire diplomatique et histoire militaire sur lequel Jeffrey Parker, par exemple, a passé une grande partie de sa carrière et sur lequel il continue à réfléchir. Autre question qui m'est venu à l'esprit en entendant un certain nombre de ces communications, pas toutes, c'était le problème de violence et diplomatie. Pas seulement au niveau de la diplomatie comme solution pour la violence entre les États, mais c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé, c'est-à-dire la violence à l'intérieur de la diplomatie. Et comme il n'y a pas d'enregistrement, je peux vous dire d'ailleurs que Parmi les raisons pour lesquelles je m'intéresse à ça, c'est parce que mon frère est diplomate et je vous avoue que la vie à l'intérieur des ambassades, parfois, c'est extrêmement violent. Les rapports entre hiérarchiques ne marchent pas du tout. Souvent, il y a des gens dans une situation inférieure qui vont se lever, qui vont créer des problèmes, parfois des grandes difficultés, comme on a vu, par exemple, dans le cas indien aux États-Unis il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Bon, en tout cas, donc, la violence et la diplomatie, pas seulement comme 2 choses, mais la violence à l'intérieur de la diplomatie, des questions de discipline à l'intérieur d'une ambassade, comme on a vu, mais aussi dans d'autres situations. Encore une fois, j'imagine qu'il y a des travaux sur cette question de la protection de personnages de l'ambassadeur, jusqu'à quel point on peut compter sur ça, parce qu'on sait que par le passé, il y a eu des grands moments quand l'ambassadeur se trouvait sans protection, parce que l'autre État a décidé qu'il n'avait pas le droit de protection. Le cas assez connu, c'était avec Temur à la fin du 14e, début 15e siècle, quand il a refusé ce droit aux ambassadeurs chinois, qu'il a exécuté. Et les Chinois ont finalement accepté ça. Ils ont continué les relations néanmoins. Donc, vous avez ce genre de questions aussi, que ça vaut la peine de reprendre. D'ailleurs, j'ai une petite réflexion un peu autour de cette question dans mon dernier livre sur les rencontres entre les sociétés de cours, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Bien sûr, et ça c'est le dernier aspect sur lequel je vais me pencher, on aurait pu faire autrement, différemment, côté géographique. Mais on n'avait qu'une journée. J'avais aussi voulu, par exemple, intégrer des éléments portant, par exemple, un peu plus sur l'Afrique. On a touché à peine l'Afrique à un certain nombre de moments. C'était dans mon idéal aussi nécessaire, par exemple, de repenser les relations en Extrême-Orient. Je pense que, par exemple, tout le système diplomatique portant sur la Chine et le Japon, dans les derniers temps, a eu des énormes progrès. Je pense notamment, pas seulement au livre d'Adam Clulow sur la diplomatie des shoguns, mais une découverte récente et très intéressante qui est sur les archives des traducteurs de la diplomatie Tokugawa. Donc maintenant, on a trouvé tous les archives de tous les gens qui étaient utilisés par les affaires étrangères des Tokugawa au XVIIe, XVIIIe siècle, quand il s'agissait des pays lointains, même des pays avec lesquels ils avaient peu de contacts. Par exemple, ils avaient employé quelqu'un pour le persan au XVIIe siècle, quand il y avait très peu de persophones au Japon à cette époque-là, mais il y avait toujours quelqu'un qui était là au sol de l'État japonais. Ça aurait été le genre de choses sur lesquelles on aurait pu revenir. Pour terminer, juste pour vous remercier tous les intervenants, les gens dans l'assistance qui ont posé des questions, qui nous ont aidés aussi à réfléchir sur cette question. Comme vous le savez, ce genre d'événement, c'est ni le début ni la fin. On fait ça parce qu'on a déjà à fond de travaux, de réflexions déjà présents. Et on fait ça toujours en espérant qu'on n'a pas dit le dernier mot, mais qu'on aura aussi d'autres occasions pour parler de ces questions. Je vous remercie.